Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette émission, nous avons rendez-vous avec notre ami motard, Christophe Tillemant. Bonjour.
Bonjour la Miche, bonjour à toutes et à tous.
Tu nous proposes aujourd'hui un dossier sur la conception et la fabrication d'un magazine mensuel, entre autres Moto Magazine, et d'un journal hebdomadaire, La Vie de la Moto.
Tout à fait. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on avait fait une émission sur la presse moto, qui avait eu beaucoup de retentissement. Et donc aujourd'hui, comme tu viens de l'annoncer, on fait une émission sur la fabrication d'un magazine. Alors, il se trouve que je suis correspondant pour le Nord de Moto Magazine et que j'ai proposé à l'équipe de rédaction de s'inviter ici pour nous parler de la fabrication du journal. Donc, j'accueille Pierre Orluc, qui est directeur de la rédaction de Moto Mag. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour à tous.
Ça va? On est en visio, on est en présentiel.
On n'a pas Pierre dans les studios, mais il va suivre l'émission avec nous. Bienvenue donc dans l'émission. J'ai invité des membres de notre association, Kikinkout et Toupal, en la personne de Yanis, donc, que j'ai intitulé « Grand lecteur voyageur ». Yanis, tu peux te présenter un peu sur ton parcours motard?
D'abord, bonjour à tous. Moi j'ai 60 ans et je fais de la moto depuis l'âge de 16 ans. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des motos dans mon garage.
Ah, j'étais vieux, hein,
Yannis. Des motos solo ou des sidecars, enfin souvent les deux en fait. Voilà, j'ai plus de sidecar là. Tu m'as présenté comme un motard voyageur. J'ai pas mal voyagé à moto. Je suis pas le seul autour de cette table et de notre association Kikinkout et Toupal. J'ai eu le plaisir d'être interviewé par un correspondant de Motomag, par Guillaume. Oui.
Guillaume Dayan.
Voilà, par Guillaume Dayan, qui a fait paraître un bel article sur ma modeste personne pour le numéro hors d'été.
Tourisme.
Tourisme, oui, on a parlé, parce que.
Oui, t'es un grand spécialiste.
Je suis géographe et j'ai écrit sur la moto et la géographie, le voyage à moto. À travers le prisme de la géographie,
Et puis, on te fera réagir et poser des questions à Pierre dans le courant de l'émission. J'ai fait signe également à Albert, donc j'ai intitulé le lecteur candide.
Oui, t'inquiète pas, j'ai été beaucoup plus court, effectivement.
Le lecteur de base, Pierre.
Donc avec autant de carrières moto que peuvent le dire certains autres ici autour de la table. Bon, donc c'est une émission de jeunes pour les jeunes, tu auras compris. Mais voilà, donc lecteur candide, mais justement parce que la presse moto, elle est quand même... moi, je trouve qu'elle a évolué, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus effectivement hebdomadaires qui paraissent et c'est intéressant de revenir un peu aux sources. Bon, Pavé dans la Mare et effectivement et Motomag, et je crois que c'était intéressant parce qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont d'actualité et importants. Voilà, donc j'interviendrai, j'espère, au fil de l'émission.
Merci voilà. Albert et la Miche.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on présente encore la Miche?
Non.
Vas-y.
Je ne voudrais pas faire partie des murs, quand même.
Tu peux quand même dire ton parcours motard.
J'en ai tellement fait que. Ça demanderait l'émission. Et on a notre invité qui est là au téléphone.
Un jour, on fera un spécial.
Si vous voulez, allez.
Alors, ça me dérangerait. Je voudrais revenir donc à Pierre, parce qu'on ne l'a pas laissé se présenter. Pierre, tu as commencé comme nous, tu as fait de la radio.
J'ai commencé comme vous, alors à tous les niveaux d'ailleurs. J'ai commencé la moto, la première fois j'ai posé les fesses sur une moto, j'avais 7 ans, c'était sur l'arrière d'une BSA Goldstar 350 d'un demi-frère, et c'est ça qui a lancé ma vocation entre guillemets de motard et ma passion pour la moto. Et sinon, effectivement, pour le métier entre guillemets, j'ai commencé à l'époque de l'explosion des radios locales en France, quand François Mitterrand a libéré les fréquences des années 80.
Radio libre. Et tu as fait un an RCV.
Radio Cité Vauban. Enfin, alors j'étais étudiant en même temps à l'époque.
Hein, donc, Radio Paco peut-être à l'époque.
C'était vraiment la bonne franquette. Hein. J'avais débarqué comme ça en disant, est-ce que vous voulez, je peux vous faire une émission de moto, je peux vous faire une émission de radio et sur le rock progressif. Et on m'avait dit, tiens, on ne sait pas, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé comme ça. Après, j'ai fait un long stage dans une agence radio à Paris. J'ai bossé au service des sports du Figaro, j'ai fait un stage à l'IV, et après j'ai fait une école de journalisme, et je suis parti, j'ai réussi après mon école de journalisme à rentrer dans un hebdomadaire dans lequel j'ai passé 30 ans, qui s'appelle Motojournal, avant d'arriver il y a 4 ans et demi à Moto Magazine en tant que directeur de la rédaction. Voilà, vous savez tout.
Ça fait une belle carrière. Hein.
Alors effectivement, je disais tout à l'heure 16 ans que je pige pour Moto Magazine. Je sais pas, il y a dû y avoir deux directeurs de la rédaction avant toi sur la période. me semble-t-il.
Oui, très probablement.
Bon,
oui.
Et donc, tu es arrivé, tu nous expliqueras, tu as imprimé un peu ta patte en matière de ligne éditoriale. Hein, justement, on parlait des Grands Prix tout à l'heure, c'est une nouveauté, c'était peu abordé précédemment. Et donc, c'est la construction, justement, de cette ligne éditoriale dont tu nous parleras. Et puis, dans la séquence qui suivra juste après la pause musicale, on a eu la chance de rencontrer Thierry Diller, donc le gérant, le directeur de la publication de Moto Magazine. Et donc, on l'avait interviewé et je te propose donc tout à l'heure de continuer dans cette ligne de présentation de Moto Magazine pour aborder le premier sujet sur la préparation des sujets en amont qu'on évoquera dans la séquence suivante. Donc je te donne rendez-vous tout à l'heure. Comme tu es en ligne avec nous en visio, tu vas pouvoir entendre l'interview, tu vas la découvrir et puis on complétera évidemment avec ce que tu pourras nous dire.
Voilà, vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com. Forcément à la technique, on salue notre pilote d'émission, Laurent. On se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. À tout de suite.
We'll be right back.
L'info moto tous les dimanches est sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Christophe.
Oui, heureux de retrouver ceux qui prennent l'antenne maintenant. Donc, je rappelle qu'on reçoit aujourd'hui Pierre Orluc, directeur de la rédaction de Moto Magazine, pour parler de la fabrication donc d'un magazine moto, en l'occurrence le mensuel Moto Magazine. Je disais tout à l'heure qu'on avait le bonheur d'avoir rencontré Thierry Diller, donc directeur de la publication. Je te propose d'écouter cette interview et puis de compléter ce qu'on peut dire sur l'organigramme. Hein, c'est pour dresser un peu le tableau de l'organisation de Moto Magazine dans l'architecture des éditions. Alors on écoute Thierry. Thierry, que tu nous fasses simplement le cadre de l'organisation en fait, qui est en place et à quel maillon, toi, tu corresponds dans tout ça.
Ah, cette chaîne.
Oui, c'est la chaîne, c'est carrément la... J'espère ne pas être le maillon le complet. Vous êtes le maillon faible.
J'espère ne pas être le maillon le plus faible de la chaîne. Voilà. C'est celui qui ronde, donc voilà.
C'est toi qui mets de l'huile, non, j'imagine?
Ouais, voilà, plutôt, j'essaye de mettre de l'huile, ouais. Ça, c'est une de mes principales fonctions. Ouais. En fait, on nous connaît sur le nom de Moto Magazine, mais en fait, Moto Magazine, c'est le produit des éditions de la FFMC. Les éditions de la FFMC, c'est une SARL. Il y a deux actionnaires qui sont, d'une part, la Fédération Française des Motards en Colère, donc la FFMC, et d'autre part, l'Assurance Mutuelle des Motards, la Mutuelle des Motards, qui sont actionnaires à 50-50. Et moi, en fait, je représente ces deux associés dans le fonctionnement de la SARL, puisque je suis mandataire social gérant. Et mon boulot, c'est effectivement de mettre de l'huile dans les rouages, de recruter les gens, de surveiller un peu le budget, les coûts de fonctionnement, etc.
De faire marcher le modèle économique.
Voilà, faire marcher le modèle économique, de faire de l'arbitrage sur la stratégie, sur ce qu'on veut faire, sur les choix. Négocier le prix du papier avec l'imprimeur, tous ces aspects-là.
Oui,
donc c'est un aspect assez technique sur la presse.
Depuis quand tu fais ça?
Je fais ça depuis juillet 2017.
T'es venu comment, pas à ce métier-là par hasard ou...
Alors, c'est j'ai gagné un concours de circonstances.
Ah, tu m'as fait peur.
T'as vu de la lumière, t'es rentré
Non. En fait, c'est plus sournois que ça, puisque je suis membre fondateur de la Mutuelle des Motards et j'étais administrateur pendant 30 ans, vice-président de la Mutuelle. Et dans un de mes mandats d'administrateur, je suivais la filiale, les éditions de la FFMC. Et puis, on a un gérant qui est parti en retraite. Et à ce moment-là, moi, comme j'avais pas renouvelé mon mandat d'administrateur de la Mutuelle des Motards, parce qu'il faut bien à un moment laisser de la place aux autres, on m'a proposé, les associés m'ont dit, puisque tu as suivi le dossier pendant des années, on aurait besoin de quelqu'un qui soit un mandataire social et qui surveille un peu et qui remette un peu l'église au milieu du village. Donc je m'y suis collé. Voilà.
Sans expérience. Un petit peu quand même.
Oui, une expérience quand même, un petit peu, puisque je suivais la filiale depuis un certain nombre d'années.
Mais tu as découvert le métier en même temps, quoi.
Ah, j'ai découvert vraiment le métier, les aspects techniques du métier. Donc c'était une découverte pour moi. Et puis maintenant, je me suis adapté. Ça n'a plus de secret vraiment pour moi, quoi.
Oui, alors c'est vrai que tout à l'heure, quand je t'ai présenté à l'équipe, je t'ai présenté comme le gérant. Et tu l'as bien fait, tu viens de le préciser, donc mandataire social.
Oui.
Parce que quand on prend le Motomag qui sort chaque mois, hein, que j'ai dans les mains là, en fait, tu es directeur de la publication. Donc c'est aussi un titre.
Et des responsabilités.
Ça, il l'a dit. Hein, tu me demandais en off si c'est lui qui avait le pognon. Il est garant du pognon.
Oui, parce que moi, j'ai pas de pognon du tout dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'appartient. Voilà. Rien ne m'appartient, mais par contre, je suis garant effectivement de la bonne utilisation de l'argent qui est octroyé au fonctionnement de l'entreprise. Et le statut de directeur de publication, en fait, il vient de fait parce que j'endosse la responsabilité de tout ce qui est publié. Donc il en faut un, c'est le gérant. C'est-à-dire tous les gérants de presse, des magazines, sont d'office directeur de publication.
Voilà. Donc c'est vrai qu'après, ça définit aussi, on en parlait tout à l'heure en préparant le sujet, et effectivement, vous avez eu à devoir gérer la perte de personnes dans votre équipe.
Oui.
Et donc aujourd'hui, c'est combien de personnes dans l'équipe Motomag?
Alors dans l'équipe Motomag, on est 17 en tout.
Oui.
Donc là, il y a aussi des gens qui s'occupent de l'administratif, hein, comptable, gestionnaire, gestion des abonnements. Mais on a 8 journalistes, en fait. 8 journalistes. Et dans ces 8 journalistes, il y en a 2 qui ont des fonctions particulières, qui ne produisent pas du texte ou de la publication. Ce sont la secrétaire de rédaction, qui est elle qui fait toute la correction de tout ce qui est écrit dans le magazine. Et puis le maquettiste, qui lui est chargé de la mise en page du magazine, de la création de la couverture, etc. Donc en fait l'équipe vraiment chargée du rédactionnel est assez réduite, d'autant plus qu'on s'est beaucoup développé sur la vidéo aussi,
voilà.
Et que ça nous occupe maintenant. Il y a Fred, le journaliste, qui consacre la totalité de son temps à la production de vidéos.
Oui, je disais mes débuts effectivement de correspondant pour Moto Magazine, c'était Fred qui était correspondant, enfin notre interlocuteur au niveau des régions. On écrivait pour le Mac papier, et puis il y avait déjà Internet évidemment, hein, donc il y a eu ce basculement vers le site Internet et la production de vidéos. Ouais. Et maintenant, il est à part entière dédié à ça.
C'était indispensable de passer au multimédia finalement, c'est ça ?
Oui, c'est indispensable parce que ça nous permet d'élargir le panel, c'est-à-dire qu'on
d'avoir plus on va
plus de visibilité, parler des sujets de façon différente, des mêmes sujets de façon
avec
différente.
Avec l'image,
et ça touche un public différent. Et si aujourd'hui on est en progression sur les ventes kiosques, magazines,
c'est grâce au multimédia.
C'est grâce au multimédia, puisque on a aussi un langage. D'ailleurs, vous regardez, ceux qui nous connaissent et qui regardent les vidéos, il y a bien un langage dans lequel on dit soutenez la presse, lisez Moto Magazine, abonnez-vous, etc. Et ça fonctionne, et ça nous a permis de drainer un public un peu plus jeune que nos lecteurs abonnés.
C'est-à-dire, ça rajeunit un peu, finalement.
Ça rajeunit un peu les lecteurs, et ça donne une visibilité supplémentaire qui est tout à fait bénéfique au papier. Puisqu'aujourd'hui, on vend plus de papier en kiosque que les années précédentes.
Oui, c'est le nerf de la guerre. Bon, il y a évidemment la publicité dont vous faites écho dans le journal. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec Pierre. Et puis, les abonnements. Hein. Je me souviens toujours de Philippe qui rappelle quand c'est gratuit, c'est toi le produit.
C'est toi le produit, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Donc,
après aussi, la progression en termes de vente, c'est aussi peut-être parce qu'il y a d'autres magazines qui, hélas, ont dû mettre la clé sous la porte aussi, non ?
Oui, hélas. Alors, pas uniquement, parce qu'on constate cette progression depuis 4 ans maintenant. Donc, alors on est à une tendance inverse de ce qui se passe dans la presse. Hein. C'est-à-dire que la presse magazine, la famille moto, c'est moins 14% de façon chronique depuis plusieurs années. Nous, on oscille en fonction des années entre plus 9, plus 8, plus 4.
D'accord.
Donc voilà, c'est.
Mais c'est aussi parce que vous êtes. C'est la pétale en fait. C'est aussi parce qu'il y a la FFMC, parce qu'il y a la mutuelle, parce qu'il y a aussi ça. Quoi.
Ben, il y a ça, bien sûr, puisque ça nous fait des relais aussi de communication. Et puis on traite des sujets qui sont communs. C'est-à-dire que quand on va faire des dossiers sur la défense de la moto, quand on fait des dossiers sur la défense de la moto, ça intéresse directement la FFMC, la mutuelle des motards, etc. Et en fait, les titres qui ont disparu, c'était les titres qui étaient situés sur des niches. Et il reste maintenant plus que les généralistes dont on fait partie.
Oui, enfin, à votre mérite, c'est d'avoir essayé des produits. Je pense à Femme et Motarde, que j'ai eu l'occasion de présenter une fois. Puis après, les 125, les scooters. Et GP Mag, qui est un de vos derniers produits, qui fait partie du Giron.
Oui. Alors GP Mag, c'est vraiment un truc très très orienté sur le Grand Prix, et ça concerne un public de passionnés. Donc c'est une niche, ça, hein, c'est un peu un pari. Honnêtement, ça a du mal à décoller parce que on fournit pas beaucoup de papier dans les points de vente, parce que pour l'instant on démarre, et donc c'est difficile de faire connaître le titre. C'est pour ça qu'on pousse aussi la partie digitale.
Mais aussi dans le magazine, on trouve davantage de pages consacrées au GP maintenant aussi,
oui.
Qu'on n'avait pas avant. Quoi.
Non, alors ça c'est aussi une évolution. Donc ça c'est Pierre Orluc, le directeur de la rédaction, qui a apporté ça quand il est arrivé. Il a enrichi la ligne éditoriale du magazine, et on a apporté du sport qu'il y avait très très peu dans
tout à fait.
Précédemment. Mais on l'a fait en rajoutant des pages. C'est-à-dire que voilà, on a augmenté la pagination parce qu'on voulait surtout pas enlever ce qui faisait la notoriété de Motomag et son ADN. On voulait juste apporter un petit peu de peps, un petit peu de fun un petit peu de culture, sport, aussi du portfolio, de l'image beaucoup, de façon à élargir un peu notre public.
Et puis
la moto, c'est quelque chose de ludique, c'est aussi une passion, donc il faut donner aux gens envie de pratiquer la moto. Donc on leur apporte un peu de culture, un peu d'image, des belles choses, des choses un peu décalées, il y a des sujets un peu décalés, et ça on l'a apporté en plus, donc en augmentant l'impagination. Et ça a aussi un impact aussi sur les ventes, effectivement, sur l'attrait que peut avoir le magazine. She's coming back home, she's knocking at my door. She says she wants to stay with me. Ah, she's playing at my heart. She's tearing me apart. She says her love for me is free. She's coming back for more. She got me on the floor. She got me doing things she needs. But what am I to guess when she got me in this mess? And everybody here can't see. And the light of the day has finally found its way. I got my eyes wide.
L'info de la moto, c'est sur Campus tous les dimanches à partir de 11h sur le 106,6 ou www.campuslille.com.
Oui, alors on reprend avec Pierre. On a écouté l'interview donc de Thierry Diller, je rappelle, directeur de la publication de Moto Magazine. Pierre, toi, tu en es le directeur de la rédaction. Alors, je voudrais juste te faire réagir. Thierry nous a donné la structure, l'organigramme. Et il nous parlait de 17 personnes à Moto Magazine. Mais on a eu un dossier presse, j'en parlais tout à l'heure. Il l'a évoqué aussi. Il y a une réduction des effectifs. Donc aujourd'hui, chaque fois qu'on correspond, on a l'impression que vous êtes toujours en bouclage, quoi.
Alors, il y a une réduction des effectifs, effectivement, que je n'ai pas connue, puisque je suis arrivé après. Il y a eu, effectivement, un plan social, il y a quelques années, où beaucoup de gens, malheureusement, sont partis de l'entreprise, ont dû quitter l'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, Thierry l'a rappelé, on est une petite structure hein, pour faire tout ce qu'on a à faire. Je rappelle, comme l'a dit Thierry, il y a 8 journalistes, dont 2 qui sont, en fait, dédiés à la fabrication en tant que telle, donc qui ne produisent pas du texte ou ce genre de choses ou des vidéos, et puis quelqu'un aussi maintenant, Frédéric Brosiac, qui est passé à la vidéo quasiment intégralement, puisqu'il n'écrit plus que le casque d'âne dans Moto Magazine, mais Dieu sait s'il a du travail pour la vidéo. Donc effectivement l'équipe est toute petite, et moi mon rôle dans cette équipe c'est de faire le chef d'orchestre éditorial, puisque Thierry, lui, vous l'avez compris, il l'a expliqué très bien, ce sont plutôt les finances, la gestion globale du magazine. Au passage, d'ailleurs, pour l'anecdote, quand vous êtes directeur d'une publication, s'il y a un gros problème avec la publication, c'est vous qui allez en prison. Hein. C'est-à-dire que si les journalistes écrivent une grosse bêtise, c'est lui qui peut aller en prison.
C'est lui. C'est Thierry,
exactement. Ah, oui, donc oui, voilà.
Ça, en fait, ça n'est jamais arrivé à Moto Magazine.
Non, ça arrive heureusement très rarement dans la presse. Mais c'est vrai que nous avons un rôle complémentaire, Thierry, pour tout ce qui est gestion globale au sens large du terme de Moto Magazine et de ses entités, et moi qui suis là pour faire de l'éditorial, de faire le contenu du journal.
Ok. Alors je voudrais rappeler les 3 étapes là qu'on va évoquer dans nos séquences suivantes. Hein. Donc là, on va parler des sujets en amont. Comment se prépare finalement la publication du mensuel. Après, on pourra aussi parler des hors-séries. Il y aura une séquence sur la maquette, les étapes de fabrication et ensuite les contraintes que vous rencontrez. Et je ferai réagir Albert et Yanis et Lamiche, évidemment, par rapport... On a sous les yeux, d'ailleurs, le magazine qui est sorti pour le mois de mars, hein, donc c'est celui qui est intitulé Mars, parce que je rappelle que vous sortez le 15 février le magazine de mars et que celui d'avril est déjà sorti depuis le 15 mars.
C'est une petite gymnastique. J'avoue, moi qui ai passé 30 ans dans un hebdomadaire avant, j'ai eu un peu de mal à m'y faire au début. Voilà. Je me perdais un peu, mais maintenant ça va.
Voilà. Alors, explique-nous qui écrit dans le journal et quelles sont les collaborations entre les pros, hein, donc les journalistes, les gens qui sont de ton équipe, et puis des signatures alternatives qu'on peut trouver. Des magazines, je pense à Moto 80, puisque vous avez aussi des Belges qui écrivent dans le journal. Et puis Aldo aussi, je pense, qui est en voyage au Mexique là, en ce moment.
Il est en voyage, en tout cas, en Amérique du Sud.
En Amérique du Sud, voilà.
En Amérique centrale, plus exactement.
Et puis les correspondants locaux de presse, ou régionaux, tels que nous. Voilà. Alors, explique-nous un peu quelles sont les collaborations et comment vous gérez ça au niveau
le fait de préparer les sujets en amont, c'est absolument primordial, c'est capital pour le journal. On ne peut absolument pas se permettre d'arriver la bouche en cœur à quelques jours du bouclage. On aura l'occasion d'en parler pour la fabrication, ce que c'est que le bouclage. On ne peut pas arriver la bouche en cœur à quelques jours, ce n'est pas possible. Donc il faut au maximum anticiper. Je dis bien au maximum parce qu'avec une toute petite équipe comme on est aujourd'hui, l'anticipation est bien évidemment moins simple. Donc nous évoquons un certain nombre de sujets en commun quand nous faisons des réunions de rédaction que nous décidons ou pas de passer avec un angle, ce genre de choses. Moi-même j'en impose parce que c'est mon rôle, j'en mets en branle, et après nous devons faire la réalisation. Donc les sujets sont préparés et après on affecte une personne à tel ou tel sujet. Donc les journalistes de Moto Magazine, bien évidemment, peuvent faire des sujets. Je parle par exemple des essayeurs qui, eux, c'est simple, on comprend très vite, vont partir sur la plupart des essais de moto qui sont organisés soit par les constructeurs de moto, soit que nous organisons, nous, par exemple, des comparatifs, des face-à-face et autres. Donc ils vont partir écrire leur papier là-dessus, faire leur essai, écrire leur papier là-dessus. D'autres vont écrire des enquêtes, ce genre de choses. Donc il y a les journalistes en interne, et puis, comme tu l'as dit, Christophe, il y a effectivement un certain nombre de gens qui sont des collaborateurs plus ou moins réguliers, qu'on emploie souvent en fonction de leurs compétences. Par exemple, on emploie des essayeurs supplémentaires, des gens qui ont des compétences en essai, parce qu'on a énormément d'essais à faire. Et en ce moment, par exemple, les essais qui sont proposés par les constructeurs se chevauchent tous. Donc, il y a plein d'essais en même temps. Donc, c'est très difficile pour la petite équipe de Moto Magazine de pouvoir faire tous les essais en même temps. Donc, on emploie des gens à la tâche, entre guillemets, comme on disait autrefois, à la pige, comme on dit dans le métier de la presse, qu'on va rémunérer pour une prestation. Donc voilà, j'envoie par exemple Damien Bertrand faire un essai d'une moto déterminée. Il va faire cet essai, va nous faire quelque chose dans le magazine et il sera bien évidemment rémunéré pour ça. Il y a aussi, comme tu l'as dit, des correspondants hein, de presse. Toi, tu en fais partie. Des personnes qui peuvent ponctuellement intervenir, que ce soit aussi sur le site internet ou dans le magazine. Et donc voilà, la règle, elle est là, c'est-à-dire qu'on détermine les sujets et après, on affecte les gens en fonction de ces sujets pour qu'ils puissent les traiter et écrire quelque chose dans le journal.
Je voudrais me tourner vers Albert et Yanis, hein, qui sont un peu nos lecteurs en attente de réponse. Effectivement, sur cette notion de préparation d'un mag, on travaille avec le mag de Mars, hein, je le rappelle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Pierre par rapport justement à la description du mag, une page de couverture par exemple, les reportages, là je vois, je sais pas, Yanis, sur le comparatif qui a été fait, est-ce que tu as une question par rapport à la préparation du mag?
Bah, par rapport à la préparation du mag, non, mais par rapport à la collaboration, parce que tu dis, en effet, il y a les pros invités, les pigistes, mais je sais aussi que pour être un lecteur assidu de Motomag, c'est d'ailleurs le seul magazine de moto que je lis et depuis toujours, hein, parce que je suis membre fondateur de la Mutuelle, je le reçois depuis qu'il existe, hein, depuis le pavé dans la mare. Il y a régulièrement des essayeurs invités, hein, des lecteurs invités à essayer des motos. Vous les recrutez comment ?
Alors, il y en a moins qu'auparavant, en fait. Pendant longtemps, ça a été effectivement une espèce de marqueur aussi pour Moto Magazine d'inviter des lecteurs. Alors, souvent, ce sont des rencontres, vous savez, on se rencontre, je sais pas, par exemple, sur un salon, des gens passent spontanément nous voir. Régulièrement, on a des gens qui viennent dire, écoutez, je me suis permis de passer, voilà, je trouve que ce que vous faites, c'est bien, j'avais envie de rencontrer l'équipe, est-ce qu'on peut discuter quelques instants. Donc voilà, c'est des choses, c'est souvent en gré de rencontre. Et puis, il y a aussi, des connaissances qu'on peut avoir dans le monde motard, des gens par exemple, vous voyez régulièrement les mêmes signatures, enfin dans les essais, les comparatifs notamment, des gens qui écrivent leur avis sur telle ou telle moto en disant tiens, moi dans cette comparative j'ai préféré telle ou telle moto. Ce sont des gens qui viennent régulièrement, qu'on connaît, qui sont par exemple, qui peuvent être par exemple des relations, des amis de Philippe Guillaume, hein. Voilà, donc c'est assez simple par rapport à ça. C'est pas toujours non plus très simple d'employer, parce qu'on les emploie entre guillemets, des gens comme ça, parce qu'il y a aussi des questions de sécurité, il y a, voilà, hein,
donc on l'évoquera avec Grégory tout à l'heure, hein, au niveau, voilà, du photographe, hein, aussi ça.
Oui, puis il faut des compétences aussi, Pierre, parce qu'on peut pas essayer une moto, bon,
exactement,
mais il faut détecter les défauts ou dire ça c'est très bien, ou à l'inverse ça par contre il y a un problème.
Oui, bien sûr, c'est important. Donc effectivement, les gens avec qui on travaille, enfin qui viennent faire un roulage, par exemple, en général, ont ces compétences-là, voilà. Et puis aussi des gens qui ont peut-être un autre niveau parfois, mais ça permet. On parlait tout à l'heure de Candide. Ça permet aussi d'obtenir voilà, ça permet aussi d'obtenir parfois un autre éclairage ou ce genre de choses. Donc voilà, mais c'est vrai que nous avons une obligation de résultat par rapport aux lecteurs qui nous lisent, c'est-à-dire de faire un essai d'une moto de façon professionnelle. Et ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Donc voilà, donc il y a les gens qui viennent nous renforcer sont encadrés par les essayeurs professionnels, et donc ça c'est vraiment très important, parce que nous avons un devoir, voilà, d'essayer la moto jusqu'au bout.
À la fois moi en tant que candide, justement je me pose la question, parce que là, ce que j'entends c'est que tu fais appel quand même à beaucoup de monde, et d'un autre côté il faut garder un grand sérieux dans l'édition effectivement d'un numéro, et je me dis que ça doit pas être si simple que ça. Donc je découvre, hein, en tant que candide, donc je livre un peu mon mon avis. Et puis bah là, c'est vrai que je vois les deux canards, donc que ce soit celui de mars ou celui d'avril, on passe de 132 à 148 pages. Ça veut dire que c'est aussi au fil du temps ou par rapport à l'actualité, on va augmenter comme ça. Parce qu'on veut retrouver effectivement des choses. Donc il y a les essais, il y a des choses qui sont programmées et qui reviennent, j'imagine, régulièrement.
Oui.
Est-ce qu'à un moment on sort un bottin de 500 pages ou alors on en fait un autre de 30 pages? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors, la règle à Moto Magazine, comme dans tous les journaux, c'est une pagination grosso modo fixe. Hein. Moi, quand je suis arrivé à Moto Magazine il y a 4 ans et demi, la pagination était régulièrement à 116 pages. Hein, voilà, avec un peu plus de pages pour le numéro, ce qu'on appelle nous le numéro double d'été, qui paraît mi-juin. Thierry Diller, notre gérant, l'a évoqué tout à l'heure. Nous avons augmenté la pagination. Moi, j'ai demandé à ce qu'on augmente la pagination parce que ça me semblait important pour pouvoir introduire notamment de nouvelles rubriques. Et puis, ça me semblait important pour lutter contre les concurrents qui, eux, souvent avaient régulièrement plus de pages. Et en fait, notre schéma de fonctionnement aujourd'hui, c'est un magazine, c'est donc 11 numéros de Moto Magazine par an, 132 pages par numéro au minimum, et ouais. Avec deux numéros normalement à 148 pages, qui sont le numéro, ce qu'on appelle double d'été encore une fois, qui paraît mi-juin, et le numéro entre guillemets salon, qui est l'avant-dernier numéro de l'année, qui paraît en novembre. Donc voilà, donc là ce sont deux numéros à 148 pages. Nous venons de faire, je vais contredire un tout petit peu ce que je viens de dire, nous venons de faire en avril un numéro de 148 pages. Pourquoi ? Là, nous nous sommes adaptés au fait qu'il y avait énormément d'essais de nouveautés en même temps. Hein, donc ça, c'était vraiment impératif. Nous ne pouvions pas faire autrement. C'est très rare, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les essais se chevauchent autant. Les constructeurs nous invitent pour faire l'essai de leurs nouveautés. Et c'est très rare que ça se chevauche. Donc on a été obligé de mettre 148 pages. Et tant mieux d'ailleurs, hein, pour le lecteur.
Bon, c'est une excellente introduction à la séquence qui suivra, puisqu'en fait, on va parler de la maquette. Tu as un peu amorcé déjà le sujet. Donc, je vous propose un intermède musical et puis on reprend la discussion sur la construction du journal et sa maquette. Mixed up.
Alors aujourd'hui, c'est un dossier sur la conception et la fabrication d'un magazine mensuel, et entre autres Moto Magazine, Christophe.
Voilà, et nous recevons Pierre Orluc, donc directeur de la rédaction. Alors pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, je vous rappelle que dans cette séquence, on parle de la maquette. On a un peu anticipé dans la séquence précédente. Tu nous parlais de la pagination et je disais que notre fil rouge, c'était le mag qui est paru donc au mois de mars. Le 15 février. Alors l'ami, il me demandait, mais pourquoi le 15? Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure. Pourquoi vous avez anticipé les publications
Alors là, écoute, je n'ai pas de réponse à ça. C'est historique à Motomagazine.
C'est pas
donc,
tout à fait
c'est
ce que
ça.
J'ai dit à Christophe durant le morceau de musique. J'ai dit que depuis que tu étais arrivé à Motomag, on recevait, quand tu étais abonné, tu reçois le mag bien avant. Parce qu'avant, c'était là en dernière semaine pratiquement. Et maintenant, on le reçoit le 15, ouais. 12, 15, voilà.
Ouais, alors,
je sais pas
si
c'est toi qui
a... c'est pas depuis du tout que je suis arrivé, c'est des choses, c'est des améliorations de traitement d'abonnement et ainsi de suite.
Bon, d'accord.
Donc voilà. En général, ça arrive quelques jours avant la publication en kiosque.
Dans la boucle, il y a quelque chose qui s'est passé.
Il faut être les pigistes et les journalistes.
Alors, tu nous parlais du nombre de pages, effectivement de la construction du mag, les espaces publicitaires dont on parlait. Et moi, j'ai une question par rapport à l'anticipation d'un mag. En l'occurrence, donc, la page de couverture, là, vous avez fait un comparatif à Vézelay. Bon, on voit que c'est une photo hivernale, donc ça a été fait très récemment, ça.
Bah, ça a été fait, grosso modo, en janvier, grosso modo. Hein.
Voilà.
Donc, pour le numéro qui va sortir mi-février, c'est fait en janvier.
Eh bien, oui, c'est du juste à temps, ça.
C'est du juste à temps. Alors, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, un mensuel, c'est quelque chose qui se fait aussi en flux tendu, et notamment pour les essais, hein, puisque tu évoques un essai, en l'occurrence un comparatif, c'est quasiment du flux tendu. Pourquoi ? Et notamment en cette période de début d'année, parce que les nouveautés qui ont été présentées, notamment au Salon de Milan, qui se déroule en novembre, arrivent après chez les constructeurs, et qui invite la presse à essayer leurs nouveautés. Alors c'est souvent, bien évidemment, pour des raisons que tout le monde comprendra bien, dans des pays un peu plus chauds, donc au sud de l'Espagne, au Portugal et autres, parce qu'en plein hiver, rouler en France, c'est pas terrible pour essayer de moto. Et donc, de janvier à avril, beaucoup d'essais sont organisés par les constructeurs. Je pense que, si je fais le calcul, il doit y avoir une quarantaine d'essais, ou 40 ou 50 essais, qui sont organisés en 3 mois et demi. Donc, c'est absolument infernal. Donc, on est obligé d'en tenir compte pour faire le numéro à chaque fois. Et ça arrive souvent très tard par rapport à la fabrication du numéro.
Il y a Yanis qui a une question à te poser.
Une question à propos des essais. Parce que, bon, je suppose que la plupart des motos que vous essayez sont de superbes motos, de très bonnes motos. Et puis, des fois, on tombe sur des tromblons. Et comment vous faites pour gérer ça vis-à-vis des constructeurs qui vous payent les motos ?
Pierre va te dire que ça n'existe plus, les tromblons.
Non, ça n'existe plus, les tromblons.
Je connais cette réponse.
Non, ça n'existe plus depuis très longtemps. Il n'y a pas de mauvaises motos aujourd'hui. Il y a eu des motos dans l'histoire, dont on ne parlera pas ici, qui ont eu des réputations épouvantables et qui étaient méritées. C'est fini. Aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaises motos. Il y a des motos plus ou moins bonnes, mais il n'y a pas de mauvaises motos, absolument pas. Hein. Vraiment, il faut absolument le dire, la production aujourd'hui est très qualitative, non seulement dans ce qui est fait, mais aussi dans la prestation proposée dans l'ensemble. Hein. Okay.
Mais est-ce que des fois vous avez des retours ? Bon voilà, il y a un petit classement quand même dans le résumé des essais.
Oui.
Parfois. Alors c'est vrai que les remarques sont rarement extrêmement sévères, mais est-ce que vous avez parfois des retours de constructeurs qui trouvent que vous avez été un peu sévère avec leur production, avec leur machine ?
Oui, ça arrive pas très souvent en fait, hein, parce que les constructeurs sont des gens intelligents qui comprennent qu'on fait notre métier aussi. Hein, voilà. En plus, la presse moto, on a passé une époque où c'était le début de la presse moto, où les jugements étaient excessivement tranchés avec des motos de moindre qualité qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire. Et du coup, il a pu avoir d'énormes clashs avec les constructeurs. Moi, j'ai des souvenirs dans mon ancien job, dans un hebdomadaire qui ne l'est plus aujourd'hui, dans lequel j'ai bossé pendant 30 ans. J'ai des souvenirs de clashs avec des constructeurs qui ne voulaient plus nous prêter de moto, par exemple, pour les essais, qui ne voulaient plus mettre de pub dans le magazine et ainsi de suite, parce que ça n'avait pas plu. Donc voilà, enfin, l'essai n'avait pas plu. C'est de plus en plus rare, mais de temps en temps, on a parfois un petit coup de fil. Voilà, bah tiens, là, ce que vous avez dit, quand même, bon. Mais c'est tout. Il y a un respect. Pourquoi ? Parce que les gens qui font les magazines, et je ne parle pas que de Moto Magazine en particulier, les gens qui font le magazine sont des vrais pros. Et quand on essaye une moto, il y a de l'honnêteté, il y a de la compétence. Et voilà, quand on en parle, c'est dans des termes qui sont argumentés et qui peuvent être bien évidemment critiqués, mais en tout cas qui sont argumentés. C'est pas du gratuit.
Je rappelle, vous parlez aux motards effectivement avec les essais de moto, mais aussi une rubrique, et je l'évoque souvent, de consommotards. Donc vous faites des comparatifs de produits d'équipement de la moto, et vous faites aussi droit de réponse, si on peut parler comme ça, de la part des fabricants.
Alors, exactement. Alors là, on touche un petit peu autre chose, c'est-à-dire que c'est le domaine de l'équipement pour la moto et le motard, hein, puisque les deux sont liés et en même temps séparés. Et effectivement, les enjeux commerciaux sont souvent très très importants. Et vous avez aussi, il faut aussi le souligner parce que c'est important de le dire, souvent les gens qui font ces équipements pour le moto ou la motard, ou les entreprises sont tenues par des passionnés. Et c'est vrai que quand vous dites, par exemple, tiens, tel ou tel casque est bon, est pas vraiment terrible parce que voilà, l'aération, le bruit, et ainsi de suite. Les gens ont parfois un peu du mal à l'entendre, et puis parce qu'ils n'aiment pas voir leur casque arriver un peu plus loin, par exemple, dans le classement. Non seulement commercialement, mais aussi parce que ce sont des passionnés qui mettent souvent leur trip là-dedans. Et en fait, voilà, donc c'est vrai que dans le domaine de l'équipement, on a régulièrement, peut-être un peu plus souvent que dans le domaine des essais, des réflexions, des droits de réponse, ça peut arriver. Voilà, parce que c'est la règle du jeu aussi. Hein. Oui.
Et ça, c'est une rubrique depuis que je lis Motomag, qui a toujours. C'est un peu spécifique d'ailleurs au magazine, je pense.
C'est absolument spécifique.
Et je ne sais pas, autour de la table, est-ce que vous avez acheté de l'équipement en fonction justement d'un comparatif ? Vous avez ciblé un produit ?
Oui, moi ça m'est arrivé. Là, je viens de m'acheter un casque qui. Je citerai pas la marque, mais ça m'a un peu influencé.
Alors, Pierre, à partir du Motomag, hein, parce que tous les débuts de mois, on fait une spéciale sommaire, hein, donc Motomagazine, et on a inventé cette rubrique utile ou futile.
Oui.
Tu vois, il y a des choses qui paraissent dans Motomag, mais on se dit, mais vraiment, à quoi ça peut servir, à quoi ça sert s'encombrer avec un truc pareil. Donc on fait une classe, futile, c'est pas utile. Tu vois,
ouais.
Voilà.
Bon, analyse.
C'est notre analyse un peu.
Ceci dit,
tard, tu vois.
Comment dire,
j'ai pas d'exemple, mais.
Oui, ça aurait été bon de donner un exemple.
Christophe, on en a eu hein, quand même. Hein.
Oui, je vais y réfléchir. Je vous dirai ça dans la séquence suivante. Mais effectivement, des produits. Je vais regarder là dans les deux mags qu'on a sur la table si on trouve ça. Mais pour revenir en fait à la construction de. Je voudrais que tu nous parles du chemin de fer que vous faites parce que c'est quand même le cœur du sujet. Votre équipe de rédaction travaille sur finalement ce conducteur, ce que nous on appelle à la radio conducteur. Vous, c'est le chemin de fer.
Voilà, c'est un chemin de fer. En fait, pourquoi on appelle ça chemin de fer ? Parce que c'est une représentation graphique de ce que va être le journal. journal, un peu comme sur des rails, en fait, hein, qui, on va d'un point A à un point B, c'est-à-dire le début du journal, la page 1 à la page 132. Et donc, moi, je crée un chemin de fer qui est sur un fichier Excel, avec des cases qui représentent les pages, qui sont numérotées. Et je crée ce chemin de fer de la page 1, donc qui est la couverture, à la page 132, qui est une page de publicité toujours, comme la page 131 d'ailleurs. Voilà. Donc, le chemin de fer est fait. Il y a des choses qui sont absolument récurrentes. Donc, au début, on a la une, l'éditorial, un arrêt ou sur image, et puis des actus, un enchaînement d'actus. On arrive aux essais et on peut avoir un sujet après les essais qui sont qui est par exemple du voyage, qui peut être un papier sur des motos anciennes, qui peut être ce genre de choses. Et puis, on arrive aussi, après, on en vient d'en parler, sur toute la problématique des essais produits et des équipements, des tests, avant de terminer sur quelques pages. Je dis bien quelques pages parce que il y a toujours eu un peu de pages de sport dans Moto Magazine. J'ai juste doublé ou triplé. Il y avait deux pages systématiques avant. On est aux alentours de quatre pages aujourd'hui, maxi huit pages quand le titre de Fabio Quartararo a été obtenu. Hein, donc voilà, je voudrais relativiser un petit peu.
Non, mais quand tu as annoncé à Thierry, hein, le gérant, tu as dit, ouais, il faudrait doubler les pages. Enfin, il faudrait en rajouter X pages. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'est comme lui,
Thierry, c'est lui
qui tient le porte-monnaie. Hein, Thierry, plus on rajoute deux pages, et plus ça coûte cher.
Thierry m'a suivi, effectivement. Pourquoi? Parce que moi, ma mission, c'était de... Allez, au moment où je suis arrivé, les ventes de Moto Magazine étaient en baisse. Ma mission, c'était de redresser les ventes de Moto Magazine. Et j'ai fait une analyse. Hein, je suis pas arrivé comme ça, la bouche en cœur. J'ai fait une analyse pendant quelques mois avant. J'ai feuilleté des dizaines de Moto Magazine. J'ai regardé ce qu'il fallait faire. J'ai constaté que la pagination, pour moi, était un peu faible, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la concurrence. Et donc, j'ai dit à Thierry, écoute Thierry, on a tout intérêt à augmenter la pagination. Voilà, ça va permettre de faire respirer le journal, pas que mettre des nouvelles rubriques, mais de faire respirer. Et donc, il a dit banco. Bien évidemment, il a étudié financièrement. Et il a dit banco parce que ça a des coûts, hein, le papier. On pourrait peut-être en parler parce qu'il a explosé depuis quelques années. Le coût de fabrication, le coût de distribution, puisque les tarifs postaux ont explosé aussi. Donc, il a dit banco. Et donc, on a fait cet effort-là et avec un chemin de fer qui a évolué, qui a grossi, dans lequel j'ai fait beaucoup de changements pour d'ordre dans les sujets, ce genre de choses et autres, en apportant quelques petites rubriques. Et surtout, je ne voulais absolument pas faire la révolution. Il n'est pas question de faire la révolution dans Moto Magazine, parce que les lecteurs sont des lecteurs fidèles, habitués à quelque chose. Simplement lui donner un peu plus de peps, l'ouvrir un peu plus sur l'extérieur et donner, pourquoi pas, on en parlera tout à l'heure avec Greg, un peu plus de place à l'image.
Oui, tu l'as évoqué là dans la construction du chemin de fer. Il y a aussi on parlait des éditions de la FFMC, donc la FFMC et l'actualité. Les zones à faible émission, le contrôle technique. Enfin bon, et ça, c'est des pages qui se remplissent effectivement dans le mag.
Oui, alors notre difficulté, bien évidemment, hein, nous faisons partie du triptyque, on l'a évoqué tout à l'heure, Thierry, et Mutuelle des Motards, Fédération Française des Motards en Colère et Moto Magazine. Donc bien évidemment, nous relayons tout ce qui est fait à ce niveau-là, et Dieu sait s'il y a du travail qui est fait, notamment par les FFMC, mais pas seulement. La Mutuelle des Motards fait aussi beaucoup de travail pour la moto en général. Hein. Voilà, il faut le savoir, et on a des actualités qui sont très liées à ça, donc nous en parlons. Alors il faut juste faire un tout petit peu attention, je voudrais préciser quelque chose qui est très important. Bien évidemment, nous sommes une émanation, la suite du pavé dans la mare qui a été au moment de la création de la FFMC, mais aujourd'hui, il n'y a pas que des gens qui sont fanas de la FFMC qui sont des lecteurs de Moto Magazine. Il y a des gens, moi, que je connais, hein, des gens que je rencontre, qui me disent, moi, la FFMC, je ne veux pas en entendre parler, voilà, mais j'aime votre magazine. Donc, notre difficulté, c'est de faire la part des choses, d'avoir un lectorat qui est très divers, sauvegarder tout ce qui est bien évidemment fait par le mouvement FFMC, Mutuelle des Motards, Moto Magazine, donc parler de ce mouvement, et en faisant attention de ne pas non plus en faire trop.
Bon, alors on retrouve Pierre, effectivement, qui nous parlait de la maquette. Alors on a abordé le chemin de fer. Maintenant, je voudrais que tu nous parles des étapes de la fabrication, parce qu'une fois que vous avez décidé de ce que vous mettez dans le mag, il n'est pas encore publié.
Et non, il n'est pas encore publié, et ça c'est vraiment capital aussi. Nous avons des étapes très précises à respecter si nous voulons paraître en heure. Et ça c'est notre juge de paix, c'est la parution à date. Hein. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons paraître le prochain numéro, faire paraître le 10 avril. C'est une date absolument fondamentale. Nous devons paraître le 10 avril, quoi qu'il se passe. Et donc une fois que nous avons déterminé les sujets, que les gens sont partis faire les sujets, ils rentrent, ils écrivent leurs sujets, ils me les donnent, je les relis, éventuellement je change les choses, je demande des précisions et ainsi de suite, et puis je le passe à Alexa, qui est notre secrétaire de rédaction. Et comme son nom ne l'indique pas, c'est une secrétaire de rédaction, ce n'est pas quelqu'un qui répond au téléphone, hein, voilà, c'est quelqu'un qui corrige les textes, hein, qui est chargé de corriger les textes dans le magazine, et éventuellement aussi d'aller un peu plus loin, hein, de faire des réflexions sur tel et tel truc, elle estime que si ça, ça ne va pas, bref. Et après, c'est envoyé au maquettiste qui va monter le sujet avec les photos dont on parlera avec Grégory tout à l'heure, avec les photos qui sont arrivées par ailleurs. Donc ça, c'est le fonctionnement global. Voilà. Et une fois que c'est fait en maquette, il est relu par Alexa et qui me renvoie ce qu'on appelle des BAT, des bons à tirer, hein, par informatique. Donc je reçois des fichiers PDF que je recorrige, sur lesquels je fais un travail encore de relecture. Et il peut y avoir plusieurs, comme ça, itérations de ces PDF jusqu'à ce qu'on estime que c'est non pas parfait, parce que rien n'est jamais parfait, mais en tout cas que c'est bon pour publication.
Oui, alors justement, voilà. Tu nous parles du numéro de mai qui sort le 10 avril. Donc là, oui. On est jour de Pâques, 31 mars. Donc oui. Là, aujourd'hui, il est bouclé.
Il n'est pas bouclé. Ah. Alors justement, il faut savoir que Moto Magazine boucle en général le vendredi, en début de mois, hein, pour une parution milieu du mois. C'est en général, nous fonctionnons par cahier, puisqu'un magazine est fabriqué avec des cahiers, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pages font partie de cahiers. Nous en avons 3, plus un cahier, ce qu'on appelle le cahier de couverture. Le cahier de couverture, ce sont les 4 pages avec la couverture et 3 pages de publicité. Et à l'intérieur, il y a 3 cahiers. Voilà. Et donc, ces cahiers, pour une question de fabrication, ce qui est aisément compréhensible, nous devons les fabriquer à certains moments. Donc, il y a des dates butoirs. Donc, le premier cahier, c'est bouclé le vendredi soir. Le deuxième cahier, le lundi soir. Et le troisième cahier, le mardi. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Nous avons bouclé, comme le premier est férié, nous avons été obligés de boucler les 2 premiers cahiers et le cahier de couverture plutôt que d'habitude, donc le jeudi, vendredi. Et nous allons boucler la fin du journal le mardi 2 avril.
Ça doit être stressant chaque mois, oui. Pierre.
Vous n'avez pas le temps.
C'est un petit souci d'imprimeur.
L'opération FFMC des autres packs, là, vous, c'est pas pour vous. Là.
Nous allons la faire en DH, ce qu'on appelle en dernière heure. Nous allons avoir quelques pages dans le début du magazine, quand nous allons boucler le 2. On va pouvoir le passer justement. J'ai réservé des pages pour ça. J'ai préparé. C'est pareil, je vous disais tout à l'heure, il fallait préparer bien en amont. Bah, c'est préparé. Je vais recevoir, j'ai déjà commencé à recevoir des photos des opérations œuvres de Pâques qui ont été faites à droite à gauche, notamment par la FFMC. Et nous allons travailler le mardi. Donc il faut respecter ce qu'on appelle ces cahiers. Si nous ne respectons pas, c'est-à-dire que si nous n'envoyons pas les cahiers à heure fixe à l'imprimeur, donc ça se fait par voie informatique bien évidemment, eh bien après il peut y avoir du retard dans la fabrication et donc dans la mise en place en kiosque et donc dans la fourniture aux abonnés.
Donc le 3 avril, l'imprimeur reçoit le fichier.
Et voilà, et il a reçu déjà des fichiers jeudi soir dernier. Il a reçu des fichiers le 29 au soir, le vendredi 29 au soir. Ouais. Et les derniers fichiers, il les recevra le 2 avril au soir. Et il va commencer à fabriquer. Il a déjà commencé à fabriquer les premiers cahiers. Et il va terminer le magazine dans la nuit de mardi à mercredi. Il faut savoir que l'imprimeur, il nous imprime pas que nous. Hein. L'imprimeur que nous employons, il n'arrête pas. C'est 24-24. Il y a Paris Match, il y a plein de journaux comme ça.
Vous aviez consacré justement une présentation de cette presse monumentale là, au sud de Paris.
Voilà. Et donc c'est vraiment impératif de respecter. Pourquoi ? Parce que Moto Magazine, par exemple, va passer en fabrication entre 3 et 5 heures du matin. Et avant, il y a quelqu'un, après il y a quelqu'un d'autre. Donc non seulement nous devons être à l'heure pour être publié et être en kiosque à l'heure, mais aussi par respect pour l'imprimeur et pour les autres journaux qui se font imprimer par cet imprimeur.
Et t'as pas toujours une petite appréhension de te dire, j'espère qu'il n'y a pas... quelque chose qui est une coquille, hein, qui est passée et que vous n'avez pas vu. Hein.
Je sais pas, si, bien sûr, une pièce comme dans les motos, une pièce de l'impression, de la presse qui. Wick.
Alors, il arrive de temps en temps. Alors, c'est en général assez transparent parce que là aussi, bien évidemment, les imprimeurs sont des vrais pros. Hein. Vous savez, c'est un métier incroyable. Je vous invite d'ailleurs, si un jour vous avez l'occasion, les gens qui nous écoutent, je sais pas, un jour ou une journée porte ouverte dans une imprimerie quelque part, allez-y parce que c'est fascinant. C'est absolument fascinant de voir comment se fabrique un journal. C'est magique. Hein. Si vous êtes gamin, quand ça vous rappelle votre train électrique, votre circuit 24, parce que c'est un peu ça. Vous voyez passer les feuilles de papier à toute vitesse, à plusieurs centaines de kilomètres heure, et c'est absolument fascinant. Bref, il peut y avoir des problèmes, mais qui sont en général assez transparents. Nous en sommes au courant, bien évidemment, mais le lecteur, en général, non. Parfois, nous avons des problèmes. Il peut y avoir, ça est arrivé assez récemment, on a été obligé de décaler la parution d'une journée, malheureusement. Pourquoi ? Parce que là, effectivement, il y a eu un problème sur une des machines, hein, une des machines qui imprime, et ouais. Malheureusement, ça n'a pas pu être réglé suffisamment rapidement pour que les journaux partent dans les kiosques.
Il y a Yanis qui a une question à te poser.
Oui, une question toute simple, Pierre. C'est publié à combien de milliers d'exemplaires ?
C'est exactement la même question alors, que j'allais poser.
Alors,
parce qu'on parlait logistique, donc ouais, c'est important.
Alors,
ça.
Alors en fait, il faut savoir que grosso modo, Moto Magazine vend une petite quarantaine de milliers d'exemplaires par numéro. Mmh. Notre schéma de fonctionnement est un peu différent des autres puisque 80% de nos ventes se font par abonnement et le 20% restant se font en kiosque. Ce qui est l'inverse grosso modo de ce que font tous les autres. Au passage d'ailleurs, juste pour l'anecdote et une précision très importante, par exemple, nous avons moins souffert que certains de la fermeture des kiosques pendant le Covid puisque nous, 80% de nos ventes étaient liées à l'abonnement. Hein, donc voilà, c'est important aussi de l'avoir en tête. Mais nous faisons à peu près 40 000 ventes par numéro. Les deux tiers en abonnement et le reste en kiosque. Mais il faut savoir, malheureusement, mais c'est la règle du jeu, que quand vous avez autant d'exemplaires, et notamment en kiosque, quand vous en vendez un certain nombre, il faut quasiment en produire deux fois et demi plus pour être sûr de voilà. Donc, si on vend, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 000 exemplaires en kiosque, on va en produire 30 000.
Oui,
et les 30 000, les 20 000 autres vont être pilonnés. Enfin, mais ça, ce sont des règles, je n'expliquerai pas là, c'est trop compliqué. Pour toute la presse, c'est ce qu'on appelle le bouillon, hein, le taux d'invendus, les invendus, voilà. Et il faut ça l'avoir en tête.
Alors après, on retrouve ces mags dans les salons, hein, puisque vous les distribuez. Je rappelle qu'au salon de Douai, mais je pense que c'était pareil au salon de Lyon, vous aviez déjà le numéro d'avril qui était à disposition. Il y a des gens qui me l'ont montré. Ouais, on a le numéro. Albert.
Moi la question c'était, on parlait justement d'édition et donc du volume, mais de savoir si effectivement c'était publié aussi dans d'autres pays. Ou c'était juste national ou dans les pays francophones bien sûr.
Alors c'est juste national grosso modo. Alors on fait quelques ventes. Alors il y a quelques ventes au Canada, il y a quelques ventes des choses comme ça, hein, des gens qui sont abonnés et autres. Nous avons en Belgique, nous n'y sommes pas parce que nous avons une espèce de partenariat avec Moto 80, hein, notre confrère et ami d'ailleurs, avec qui nous partageons des sujets. Hein, vous retrouvez des sujets de Moto Magazine dans Moto 80 et de Moto 80 dans Moto Magazine. Régulièrement. Et donc voilà, c'est un gentleman agreement, c'est un modus vivendi que nous avons trouvé, un partenariat de bonne intelligence. Mais nous vendons effectivement dans quelques pays, si vous voulez, limitrophes et ainsi de suite. Mais voilà, guerre plus loin.
Okay. D'accord.
Bon, merci Pierre. Alors, les personnes qui travaillent actuellement à Moto Magazine, toi, tu nous as dit que tu étais là depuis 2019. C'est des anciens ou c'est des gens récemment arrivés?
Non, l'équipe de Moto Magazine a de la bouteille, hein, en tout respect, bien évidemment, hein, que je leur dois, et de la bouteille, non, mais dans le bon sens du terme. Ce sont vraiment des gens qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, qui sont là depuis un certain nombre d'années. Je pense que la plupart des gens ont une quinzaine d'années d'expérience à Moto Magazine aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi important, hein, ça permet de transmettre.
Christophe Tescoul, maquettiste, que malheureusement nous n'aurons pas tout à l'heure à l'antenne, me disait qu'il avait 25 ans de maison.
Oui.
Et il n'est pas motard. Parce que non. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé est-ce qu'il fait de la moto, il m'a dit non.
J'ai une question à poser.
Il est en mobylette.
Voilà. Il est en deux roues quand même.
Ouais, c'est quoi c'est
Il est en deux roues.
Pierre, il passera le contrôle technique comme les autres.
Il a passé presque.
Il n'y a pas de raison.
Tu as pratiquement les deux tiers de ta vie dans la presse moto en fait.
Ah oui, hein. Professionnel.
Alors, c'est quoi quarts, c'est, ouais. c'est un travail ou c'est une passion que tu es.
Ah non, c'est. Alors c'est. Moi j'ai. Alors je vais. Moi, je m'estime absolument privilégié. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, parce que je fais un métier que j'adore, qui est le journalisme. Je suis passionné de journalisme. J'ai fait des études de journalisme. Donc voilà, ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et la deuxième, c'est que j'ai pu marier ma passion du journalisme à la passion de la moto. Vous avez compris tout à l'heure, j'ai dit que j'avais commencé la moto sur la selle d'une Goldstar 350 à 7 ans. Eh bien, j'ai pu marier mes deux. Donc j'ai une chance absolument extraordinaire de marier ces deux passions. Donc voilà, la réponse, elle est à double tranchant, à double titre, pardon. Moto, journalisme, et quoi de mieux. Voilà.
J'ai mon voisin, cas, moi, Yannis, c'est jours. Pareil. Il a son fiston, là, Valentin, qu'il suit partout à moto et qui a largement... Tu l'avais développé dans l'article.
Ben oui, moi, mes enfants ont fait de la moto à quelques semaines parce que j'avais des cars à l'époque.
Plus jeune que toi.
J'avais même pas de voiture. Mon premier fils, j'ai ramené sa maman à la maternité en sidecar parce que j'avais pas de bagnole et je l'ai sorti avec le bébé de la maternité en sidecar. Donc mes enfants, j'ai 4 enfants, ils ont tous fait de la moto très 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 jeunes.
Voilà, tu vois, Pierre, la relève est là, hein. Y a pas de souci.
Oui, ouais. Non, mais d'ailleurs, la relève est là, hein. Et vous savez, juste pour terminer là-dessus, il s'obtient toujours autant de permis en France aujourd'hui, 120 000 permis tous les ans, hein. Ouais. Voilà.
Ok.
Je m'appelle Zélie. Vous écoutez les programmes de Radio Campus sur le 106,6 ou sur le www.campuslille.com et sur les DAB+. Bonne écoute. Give me some kicks. Now I want you ladies. I shoot from the hip. I was born with a stiff. Stiff upper lip. Lock it down.
Et on retrouve Pierre Orluc, donc directeur de la rédaction de Moto Magazine, pour conclure notre émission consacrée à la fabrication des journaux moto. Donc en l'occurrence, pour ce qui concerne Pierre, Moto Magazine. Malheureusement, donc j'ai dit, Christophe ne peut pas être parmi nous le maquettiste, mais il travaille en binôme. Hein, c'est vraiment, c'est ce que disait Grégory, et tu l'as aussi précisé, le maquettiste. Il intervient à toute étape, finalement, de la construction du mag.
Quasiment, oui. Enfin, dès que les papiers sont rendus, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je les ai relus et qu'ils sont passés un petit peu en correction, il commence à travailler et c'est lui qui a la dernière main sur le journal, c'est-à-dire que c'est lui qui va finaliser ce que j'appelais tout à l'heure les BAT, donc les bons à tirer, c'est-à-dire les derniers fichiers qui seront ce que vous allez lire dans le journal. C'est lui qui va les finaliser et les envoyer à l'imprimeur. Et moi, après, je les valide sur le site de l'imprimeur. Voilà.
Alors, j'aurais posé la question à Christophe. Sauf s'il avait été là, mais je te la pose parce que moi ça fait 30 ans que je pige pour aussi un quotidien régional. En l'occurrence, Christophe, il a 25 ans de maison chez Motomag et j'ai vu l'évolution informatique du matériel numérique, donc pour les maquettes des journaux. Oui. Aujourd'hui, nous, on dépose nos articles sur un serveur. Donc les journalistes travaillent à partir des documents qu'on leur envoie, des fichiers qu'on leur envoie. Mais j'imagine que lui, il a dû aussi s'adapter aux évolutions techniques.
Il a dû s'adapter aux évolutions techniques comme toute la presse. Hein. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mon métier dans la presse quotidienne régionale, c'était en 88. On dictait nos papiers à une secrétaire qui l'écrivait quand on était en déplacement. Voilà, il faut être conscient de ça. Et les maquettistes, pendant très longtemps, quand il n'y avait pas l'informatique, ils montaient les maquettes du journal en imprimant les pages et ainsi de suite, en découpant les photos et aussi en les positionnant sur quelque chose et après en les flashant, ce qu'on appelle les flécher.
C'était une autre vie, ça, Pierre.
C'est la préhistoire.
Pour les jeunes auditeurs, les débuts d'Internet, donc il y a 30 ans, pour avoir fait aussi de la publication, je faisais exactement pareil, c'était des photos argentiques. La photo numérique, elle est apparue sur le tard des années 90. Hein.
C'est vrai que ça a simplifié énormément la tâche des journalistes. Moi, j'ai couvert 4 fois le Paris-Dakar dans les années 90. Et quand je faisais des photos, c'était des photos argentiques, il n'y avait pas de numérique, et il fallait qu'il y ait un avion de rapatriement sanitaire, malheureusement, parce que ça voulait dire qu'un pilote s'était fait mal pour la France, pour qu'on puisse envoyer nos photos. Hein, et on disait à quelqu'un du journal de venir chercher les photos à l'aéroport. Voilà, moi je me rappelle avoir mis des photos données à des particuliers au pied d'un avion. C'est plus possible aujourd'hui avec les raisons de sécurité, au pied d'un avion, en disant « Vous allez être attendu par un tel de mon journal à l'arrivée », ça pouvait être des avions qui venaient des États-Unis ou quoi que ce soit. C'est une autre époque. Le numérique a considérablement changé et facilité les choses.
Ou sinon, il y avait le pigeon voyageur.
Ouais, mais alors ça, c'est uniquement pour les annuels. C'est pour les annuels, ça. Si tu peux pas faire une périodicité plus fréquente.
C'est ça. En fait, pour le Dakar, il fallait attendre la migration des flamands.
Exactement.
Je voudrais faire une remarque par rapport à ce que disait Philippe tout à l'heure. On l'évoquait avec Albert, la lecture de la vie de la moto à l'envers. Et effectivement, c'est pareil un peu avec Motomag. Je peux vous dire, enfin, c'est une expérience personnelle, mais je voudrais la partager avec Yanis, Albert et Jean-Michel. Moi, quand je commençais Motomag, je regardais l'édito, le portrait, parce que j'aimais beaucoup les portraits. Tout à l'heure, Yanis en a parlé, puisqu'il a lui-même été portraitisé. Oui, voilà. Et puis surtout les billets d'humeur, hein, les dernières pages, etc. Philippe, Guillaume, toi également, de temps en temps. La dernière page de Motomag, j'aime bien.
Alors ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, qui a été un des changements que j'ai introduit. Je voulais qu'un journal, normalement, ce sont des temps forts, des temps plus ou moins forts. Donc c'est pas une lecture, ça doit pas être une lecture, un encéphalogramme plat. C'est des centres d'intérêt importants, des choses un peu moins importantes, des respirations et ainsi de suite. Et je voulais qu'on termine le journal sur quelque chose qui soit de nouveau un temps fort, donc une prise de position et ce genre de choses. Et voilà pourquoi on a introduit cette rubrique qui s'appelle Quartier Libre.
C'est bien d'avoir un petit peu d'humour hein, quand même, parce que bon, la moto, faut pas non plus être trop sérieux quand même. Hein.
Exactement. Il faut aussi un peu savoir relativiser.
Voilà, exactement, parce qu'il y a des choses quand même plus importantes, plus graves peut-être que la moto.
Et je rappelle sur l'intervention de Yanis tout à l'heure par rapport à un essai moto, le journal, évidemment, c'est vous qui le fabriquez, mais c'est aussi le journal des lecteurs, c'est-à-dire que quand des lecteurs vous interpellent, soit par le courrier des lecteurs, soit quelquefois, moi je me souviens d'un courrier des lecteurs où votre tableau de comparatif noté n'était pas exact.
Oui, il n'y a pas longtemps.
Et t'as fait amende honorable, effectivement. Bah oui, ça arrive. Et donc, n'hésitez pas, vous lecteurs, à réagir.
Hein, tout à fait.
Vous avez le média. Et puis, vous avez la possibilité donc d'interagir avec l'équipe de journalistes. Donc, vous avez la parole.
Oui, c'est important parce que, encore une fois, et je dis ça tout à fait honnêtement, le lecteur, c'est le client. C'est un client final à qui on doit le respect. On doit un respect non seulement de la qualité du travail, on doit un respect des délais pour qu'il ait son journal en temps et en heure, et on a un respect aussi par rapport à ce qu'on lui fournit. Et on a aussi le devoir d'échanger avec lui. Voilà, donc c'est important. Nous, on détient pas la science infuse. Hein. Les gens, ils ont aussi leur avis, ils ont aussi le droit de dire des choses. Alors, tout n'est pas non plus, c'est pareil, de leur côté valable, hein, mais ça, c'est la règle du jeu de la discussion. Voilà, mais c'est très, très important. Je voudrais juste te dire un petit truc là-dessus, et je pense que c'est de plus en plus fréquent quand même. Malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à autrefois, les conséquences des réseaux sociaux font que les gens sont plus agressifs dans leurs courriers et dans leurs réponses.
Voilà. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, la vidéo, c'est important.
Oui.
Vous avez une chaîne YouTube, j'en parle souvent.
Oui.
Mais c'est quand même l'abonnement qui vous fait vivre.
Hein, c'est l'abonnement qui nous fait vivre, mais tout est important. Et on n'a pas parlé de la vidéo, mais c'est vraiment, vraiment une autre piste. Voilà.
Okay.
Un sujet brûlant. Merci Yanis, merci Albert, merci Christophe pour ce super dossier, cette superbe émission. Voilà. Et on remercie aussi notre technicien avec une technique au micromètre.
Et surtout notre ami.
Oui.
Oui, bah oui, c'est avant tout notre
ami. Et notre ami, voilà, oui.
Voilà. J'allais à l'heure.
Et bon dimanche. Et rendez-vous dimanche prochain, 11h sur les ondes de Campus 106,6.
Au revoir.
Au revoir.